De la résistance au CNR, au programme Les Jours Heureux, une utopie devenue réalité par les ateliers de l'espoir. Le 3 septembre 1939, soit 2 jours après l'invasion allemande de la Pologne, la Grande-Bretagne puis la France déclarent la guerre à l'Allemagne nazie. En mai 1940, l'offensive allemande par les Ardennes est fatale. Le président français Albert Lebrun nomme le maréchal Pétain à la tête du nouveau gouvernement. Le 22 juin, l'armistice est signé à Rotonde avec l'Allemagne. Charles de Gaulle, de son côté, rallie Londres le 17 juin et lance son appel le lendemain. Il proclame « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas ». Les premiers signes de résistance apparaissent progressivement dans la France occupée. Les résistantes et résistants viennent de tous les horizons. Un résistant dira que la plupart n'avaient aucune appartenance idéologique, comme ces Bretons qui se rallièrent en masse à l'époque. Très peu de recrues avaient déjà un vécu politique. Quelques groupes se forment de manière spontanée. Les premiers tracts et journaux clandestins circulent. Dès l'année 1941, on peut distinguer parmi les différents groupes de résistance 2 types d'organisations, les réseaux et les mouvements. Un réseau est une organisation créée pour mener des actions militaires précises, renseignement, sabotage ou évasion de prisonniers. Un mouvement, au contraire, cherche avant tout à sensibiliser et organiser la population le plus largement possible. En 1941, Jean Moulin dresse un inventaire de ses groupes de résistance, avant de s'envoler pour Londres rencontrer le général de Gaulle. Il lui expose la situation. Les réseaux et mouvements sont fragiles, démunis et isolés les uns des autres. Les communications sont périlleuses. Pour Jean Moulin, une évidence s'impose. Il faut créer une résistance intérieure, unie, transpartisane, appuyée par une organisation centralisée. De Gaulle est convaincu à son tour. L'action devra être coordonnée avec le soutien de Londres. Le même été, la rupture du pacte germano-soviétique pousse les communistes dans la clandestinité. Le mouvement de résistance des francs-tireurs et partisans, le FTP, est fondé par la direction du Parti communiste français. Le 2 janvier 1942, Jean Moulin repart de Londres et se fait parachuter en Provence. Muni de faux papiers d'identité, il commence un voyage clandestin à travers la France. Sa mission, rallier les résistantes et résistants au général de Gaulle et fonder un front commun. Il doit unir les mouvements aux appartenances politiques différentes. Le défi est de taille. La victoire soviétique de Stalingrad en février 1943 montre à l'opinion et aux alliés que les nazis ne sont pas invincibles. L'espoir renaît. En France, les mouvements de résistance s'organisent progressivement. En février 1944, les principaux groupements militaires de la résistance intérieure française fusionnent au sein des FFI, les forces françaises de l'intérieur. En plus de la lutte militaire, une alliance politique et programmatique est indispensable. Lorsque le Conseil national de la résistance, le CNR, est convoqué, les représentants invités acceptent de s'y joindre. Ils sont issus des mouvements de résistance, des syndicats et des 6 grands partis politiques de la Troisième République. La première réunion se tient le 27 mai 1943 au 48 rue du Four à Paris. C'est la naissance officielle du CNR. Le 21 juin suivant, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo et meurt des suites des tortures infligées. Le CNR continue son travail dans l'ombre. Les membres décident de suspendre les séances plénières. Un bureau permanent est désigné. Il rassemble 5 personnes issues de plusieurs mouvements. Il travaille sur un programme d'union divisé en 2 parties. La première est un plan d'action immédiat, l'organisation d'une insurrection armée contre l'occupant allemand. Les comités départementaux de la libération sont créés pour faire participer le maximum de Françaises et Français à la lutte. Toutefois, les résistantes et résistants ne veulent pas mourir pour rien. Il faut compléter ce programme par un volet politique pour donner de l'espoir à la résistance. Les débats sont nombreux et passionnés pour construire un programme partagé. Pour le façonner, il n'y a jamais de contact direct. Tout se fait par des intermédiaires, en clandestinité totale. Les différentes mesures sont discutées pour aboutir à un consensus. Le texte, d'une 10aine de feuillets, est adopté à l'unanimité le 15 mars 1944. Il est diffusé dans la foulée sous la forme de tracts et dans des journaux interdits. À l'été 1944, Paris est libéré. Comme le dit l'historien Jean-Pierre Azéma, les Françaises et Français n'auront été, durant la guerre, ni des héros, ni des salauds. On estime à environ 150 000 le nombre de résistantes et résistants ayant œuvré dans les 266 réseaux homologués après-guerre. Toutefois, si la France est libérée et que le régime nazi s'effondre, c'est d'abord et avant tout l'œuvre des avancées du bloc soviétique à l'est et des Américains à l'ouest. Une France portée par les idéaux du CNR émerge des suites du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Le tripartisme est une coalition gouvernementale formée par les trois grandes formations politiques liées à la résistance, socialistes, communistes et démocrates chrétiens. Le gouvernement met progressivement en œuvre le programme du CNR. Il pose les bases de l'État-providence. Nationalisation, création de la sécurité sociale, reconnaissance du droit au travail et au repos, reconstruction d'un syndicalisme indépendant et réaffirmation de la liberté de la presse. Le programme prévoit aussi une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. Ces réformes figurent dans le programme du CNR, intitulé « Les jours heureux ».